Chapitre 6. On vendangeait encore au Quercy. Le phylloxéra n'avait pas dévoré toutes les vignes. Par ce tendre soleil d'octobre, les charrettes de bœufs transportaient dans les granges des tas de monde pêle-mêle avec des comportes. Les fouets, dans les moindres chemins, claquaient aussi nombreux que les jurons des routiers venus de la Garonne. Maurice comptait sur une récolte de 3 semaines, laquelle exigeait une colle d'au moins 40 vendangeurs. Il paraissait absorbé par le souci de cette organisation. Mais une pensée d'espérance, de bonheur, éclairait ses yeux. Il chargea Française d'embaucher son monde à Montpezat. « Au moins, lui recommanda-t-il, n'oublie pas Fine. »« N'ayez pas peur, répondit le serviteur qui devinait, dans sa malice, les plus secrets désirs du maître. » Française, pour que Fine ne s'ennuyât pas trop les premiers jours ou ne s'effrayât point des familiarités de M. Maurice, Française embaucha Adrien en même temps que Fine. Un beau matin, les deux enfants de l'Espigne partirent ensemble pour le château. La pastoure avait appliqué sur son dos, comme un bouclier, son grand chapeau de paille. Adrien portait son havresac sur une épaule. L'aube grisaillait dans les brumes pâles. Ils marchaient lentement, chacun sur un côté de la route. Adrien sifflotait avec insouciance. Fine admirait les vignes qui se dépouillaient de leur brouillard. À mesure, elle les trouvait plus belles. Maurice, posté au seuil de l'air, attendait Fine. Il la vit s'approcher lentement, pousser devant elle son fardeau. Il remarqua sa toilette plus hardie et coquette. Un corsage jaune, une jupe de laine verdâtre, des bas blancs, des sandales. Il sourit. Le cœur lui sauta dans la poitrine. Il courut s'enfermer chez lui, dans le salon à porte vitrée. Il se cacha derrière les rideaux transparents et lorsque Fine arriva au milieu de la cour, il observa, bien à l'aise, dans le troupeau des vendangeurs qui se soumettaient, aussi patients que des bœufs sur le champ de foire, à leur classement par groupe. Dolph, le fermier, n'en finissait plus de répartir l'ouvrage. Fine et son camarade furent classés dans la même bande. Adrien remercia le fermier par un gros rire et, pour exprimer son contentement à Fine, il frotta câlin contre ses épaules. Maurice, mal caché derrière les rideaux, observait toujours Fine, dont l'émotion mêlée d'inquiétude et de gaieté le divertissait. Sa mère descendit au salon. Il s'empressa pour l'embrasser. Ensuite, fier, tout vêtu de toile blanche, il sortit. Les vendangeurs, à sa vue, s'écartèrent, firent cercle autour de lui en un murmure d'admiration et de respect. « Bonjour, mes amis, salua-t-il. Tâchons de bien travailler, n'est-ce pas? Souhaitons que le travail dure longtemps. » Ils approuvaient du front. Adrien, pour mieux admirer le maître, s'appuya, badaud, à Fine, qui, pour avoir une manière, dénouait son chapeau, l'installait sur sa tête. Durant 3 semaines, Maurice jouit de la fête des vendanges. À cause de Fine, il endurait les ardeurs du soleil, aidait parfois à l'ouvrage. Fine ne comprenait pas la bienveillance de M. Maurice à son égard. Habituée aux rudesses de ses camarades, elle ne pouvait imaginer qu'un riche, s'il la convoitait, fît des manières. Dans la familiarité du château, elle avait perdu ses sentiments d'humilité et presque de terreur devant M. Maurice. Aux heures des repas qu'on prenait sur le talus des vignes, tous ensemble, elle plaisantait son Adrien, lui sautait dessus pour le dégourdir et il la mordait aux joues pour rire. Il était là pour surveiller, pousser à l'œuvre bêtes et gens. Puisqu'il payait un prix de fête, ses paysans devaient travailler sans distraction. Bientôt, l'indifférence de Fine irrita l'humeur du maître. Un soir, qu'elle sortait du hangar où l'on remisait les outils, il l'appela dans un coin de la cour et lui parla. « Eh bien, Finette, ce métier te va ?»«
Oui, monsieur, c'est qu'il ne dure pas toujours. »
« On pourrait lui donner suite si tes bras aiment la terre. Dis-le à tes parents. »«
Je ne saurais pas. »«
Tiens, c'est difficile à dire. »«
Qui garderait les oies ?»«
Tu ne les garderas pas toute la vie. »«
Non, monsieur. D'ailleurs, c'est loin de Montpezat, le château. »«
Tu me contes des histoires, des moqueries, sais-tu ? Avoue que quelque chose te retient à l'Espigne. » »«
Pas du tout. » « Enfin, si vous me voulez, expliquez-vous avec mon père. On verra, surtout si Adrien... »«
Adrien,
cet imbécile qui te suit comme une ombre aux heures de repos ?»«
Hé hé, s'il nous entendait, monsieur !»«
Il te battrait ?»« Bon, n'en parlons plus. C'est un rien du tout moins que toi, malgré son moulin. » Nous l'aurions vite contenté, au-delà même de ses ambitions, dans ce château ou ailleurs.
Pardi, vous ?
Allons, ma finette, ne dis rien à personne. Je suis ton maître, sais-tu, et je sais, moi, que ton père te battrait plus fort qu'Adrien si tu me faisais de la peine. Maurice s'enhardissait à mesure. Mais les pauvres, là-bas, au seuil de la cour, s'étaient arrêtés pour attendre Fine et pour épier son entretien avec le maître. Alors, après l'avoir tapoté sur les joues, qui étaient rouges et fermes, après avoir d'un regard rapide mesuré sa taille de jouvencelle, ses hanches encore peu saillantes, son sein bien accompli, il la congédia. À la fin de la dernière journée, il y eut dans la cour un vrai repas de noces. On installa de longues planches sur des barriques, on approcha des troncs d'arbres en guise de bancs. Suzanne servit des soupes de pommes de terre, des omelettes au rhum, une platée de morue, deux grasses poulardes rôties à la broche et des litres de vin à discrétion. Un seul vendangeur manquait à la noce traditionnelle, c'était Adrien. Le maître l'avait envoyé à Montpezat prévenir les parents de Fine que la demoiselle, si jeune, ne rentrerait pas à l'Espigne au milieu de la nuit. Selon l'habitude, Maurice alla trinquer avec ses travailleurs. Le doyen de la colle lui offrit d'embrasser la femme qui était le plus à son gré. Maurice d'abord hésita, dans la crainte constante qu'un de ses pauvres ne surprît ses convoitises d'amour. Mais, emporté par la passion, il se tourna vers Fine et lui tendit les mains. Fine, honteuse pour la première fois, s'avança vers le maître et, avec docilité, s'arrêta contre lui. Délicatement, il enlaça la taille sensible. Ensuite, posa sur les joues rouges qui avaient la saveur d'un fruit mûri au soleil deux longs baisers qui résonnèrent comme des coups de faux dans la luzerne. Et tous les vendangeurs de rire, de claquer des verres sur la table. Ils se levèrent, les tempes chaudes, les lèvres humides, pour chanter en l'honneur de la demoiselle de l'Espignac. Elle, non sans embarras, retournait à sa place. Les baisers du maître, qui mouillaient encore ses joues, avaient remué tout le feu de son sang. La nuit obscure confondait les bâtisses du château et le feuillage des arbres. Lourd, satisfait d'avoir mangé et bu plus qu'à leur sou, les vendangeurs montèrent au grenier, se coucher dans la paille. Fine les suivait sans mot dire. Suzanne et Dolphe fermèrent toutes les portes. Les chiens s'endormirent les derniers au milieu de la cour. Maurice, dans son lit de maître, veillait. Il avait peur des pauvres.